Europe 1 vous présente Parole de l'ombre 2.
Retrouvez la grande histoire des Français sous l'occupation.
Affiches, chansons, tracts, poèmes, journaux clandestins sont reproduits à l'identique.
Tournez les pages et dépliez ces archives bouleversantes pour plonger dans l'histoire.
Parole de l'ombre 2.
En librairie pour 34,80€ seulement.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Le moment est venu sur Europe 1 de retrouver Franck Ferrand pour une nouvelle immersion au cœur de l'histoire. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. L'Italie célèbre cette année les 150 ans de son unité. Eh bien, j'aimerais profiter de l'occasion pour vous parler du père de cette Italie moderne, le comte de Cavour.
150 ans seulement, et c'est vrai qu'on a tendance à oublier que l'Italie est une création tellement moderne.
Mais oui, nous allons essayer de faire le tour de la question en compagnie d'un des plus grands historiens de l'Italie, un monsieur dont je suivais assidûment les cours à Sciences Po, Pierre Milza, en personne, qui sera avec nous dans la deuxième partie de cette émission.
Allora, andiamo, Franck?
Oui, allons-y, Giulia. Andiamo.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
On a tendance à l'oublier en effet, mais l'Italie que nous connaissons est une création récente, très récente, en tant qu'État unifié tout au moins. Pendant des siècles, l'Italie était morcelée en toute une mosaïque de dizaines d'États autonomes, souvent concurrents et qui se sont beaucoup fait la guerre. Et à l'époque qui nous intéresse, au milieu du 19e siècle, on peut dire que tout le nord italien, la Lombardie, la Vénétie, plus un certain nombre de principautés, sont sous le contrôle autrichien. À l'époque, le seul État vraiment indépendant du nord de l'Italie, c'était à l'ouest le petit royaume de Piémont-Sardaigne, qui s'était révolté en 48-49 contre Vienne. Autant dire que c'était quand même David contre Goliath. La révolte des Piémontais avait été matée. Le nouveau roi, Victor Emmanuel de Savoie, Victor Emmanuel II, était dans une situation très ambiguë. C'est ici que nous faisons connaissance avec un personnage extraordinaire, le premier ministre de ce royaume de Piémont-Sardaigne, qui est un homme d'une grande intelligence, d'un caractère tenace s'il en fut jamais, un homme qui cache son jeu sous un aspect assez patelin, assez bonhomme, comme ça au physique quand vous le voyez, il a l'air d'abord d'un certain embonpoint, il a des petites lunettes rondes, on dirait un peu un notaire quand vous le voyez comme ça. C'est un modéré, c'est un homme qui s'oppose volontiers au nationalisme militant et terroriste. Or, si ce bonhomme qui s'appelle Cavour, si Cavour a tiré une leçon de l'histoire récente, c'est que l'unité italienne ne se fera pas sans une aide étrangère. Alors, quelle aide étrangère? Est-ce qu'il faut se tourner vers les Anglais? C'est là que les goûts de Cavour le porteraient le plus volontiers. C'est là que sont l'essentiel, c'est là que sont ses références. À l'épreuve des faits, Cavour va se dire que c'est plutôt la France du Second Empire qui serait la plus indiquée pour l'aider. Et pour faciliter le rapprochement franco-sarde, Cavour sait qu'il dispose d'une arme de choc. C'est sa belle cousine, la comtesse de Castiglione, et elle a 19 ans. En 1856, on l'appelle à Turin la Divina Contessa. Cavour va l'envoyer à Paris avec une mission toute simple, enfin toute simple façon de parler, séduire l'empereur des Français. On peut dire qu'à Paris, les débuts de la comtesse sublime sont tonitruants. Elle se fait tout de suite remarquer aux Tuileries, au Palais Royal. Elle a autour d'elle un cercle d'admirateurs dont l'empereur lui-même fait partie. Un soir, on voit l'empereur l'attendre à une soirée. Quand elle finit par arriver, « Vous arrivez bien tard, madame », lui dit-il. « Sire », répond la comtesse, « c'est vous qui partez bientôt ». L'empereur a mordu à l'hameçon. On va voir au cours d'une partie de campagne à Villeneuve-l'Étang, dans un petit château près de Paris, on va voir la comtesse s'éloigner pendant un moment dans une folie avec l'empereur. Et pendant les semaines et les mois qui suivent, on voit le coupé de Napoléon III assez souvent stationné devant l'immeuble où réside la belle comtesse avenue Montaigne. À Turin, Cavour se frotte les mains. Ça marche, se dit-il. Au reste, il ne s'exagère pas les mérites de sa cousine parce qu'il sait que l'empereur des Français est un sympathisant de la cause des nationalistes italiens. Napoléon autrefois s'est battu dans les rangs des Carbonari. Son frère, d'ailleurs, y est mort. La seule inquiétude pour Cavour, c'est l'attitude des extrémistes, des nationalistes qui flirtent avec le terrorisme. Du reste, vous allez voir que Cavour a toutes les raisons d'être inquiet.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Précisément au cœur de l'histoire de l'Italie qui célèbre cette année les 150 ans de son unité, Franck.
Et oui, cette unité due donc essentiellement à Cavour. Nous allons voir que d'autres grands hommes politiques italiens ont joué aussi un rôle important. Mais j'ai décidé de mettre l'accent sur Cavour parce qu'il est l'homme dont tout dépend. Et je vous disais à l'instant qu'il se méfiait beaucoup de son aile extrémiste. Il avait peur des terroristes qui luttaient contre la domination autrichienne en Italie du Nord. Et bien précisément, le 14 janvier 1858, un attentat terrible, ensanglante, à Paris, les marches de l'Opéra, au moment même où le cortège de Napoléon III et de l'impératrice Eugénie arrivait pour assister à une première. L'impératrice a sa robe pleine de sang. J'ai eu l'occasion de vous raconter ici cet attentat d'Orsini, les vitres de tout le quartier qui sautent, les chevaux éventrés, 12 morts, 156 blessés, dont des femmes, des enfants. À Turin, quand Cavour apprend la nouvelle, il est complètement effondré. Pourvu, se dit-il, pourvu qu'il n'y ait pas d'Italiens impliqués dans cet attentat. Des Italiens, il n'y a que ça. Rien que le chef du gang, c'est le comte Orsini en personne, l'un des leaders nationalistes italiens. Voilà qui ne va pas du tout arranger les affaires de Cavour. Pour le nationalisme italien, on peut dire qu'on pouvait rêver d'une publicité plus flatteuse. Et Cavour, qui, encore une fois, est un modéré, maudit Orsini et ses complices. En vérité, la politique est souvent surprenante. Nous sommes tous les jours, nous voyons à quel point elle peut surprendre. On va assister, au cours de tout le procès des organisateurs de l'attentat, on va assister en France à un retournement de la situation. L'opinion publique se met peu à peu à plaindre ces Italiens que l'on empêche de faire leur unité. Et bientôt, on va voir le peuple français quasiment comme un seul homme se mettre à plaindre ces Italiens du Nord qui sont sous la botte autrichienne.
Pire, extrait du Trouvère de Giuseppe Verdi sur Europe 1, Franck.
Cet air qu'on entend notamment au début de Senso de Visconti, vous savez, qui se passe d'ailleurs sur le fond de cette affaire du Risorgimento et de cette époque. Alors, bien sûr, l'appel que lance Orsini aux marches de l'échafaud, un appel qu'il a dicté à son avocat, le célèbre Jules Favre, n'est pas pour rien dans l'émotion de l'opinion publique en France. Que votre majesté, dit-il à Napoléon III, ne repousse pas le vœu suprême d'un patriote, qu'elle délivre ma patrie et les bénédictions de 25 millions de citoyens la suivront dans la postérité. Cet appel désespéré touche son but. Et cependant, bien sûr, alors Orsini est néanmoins exécuté. Napoléon III est ébranlé, mais cependant, les choses mettent du temps, évidemment. Il faut que, peu à peu, les Français se décident à intervenir en faveur du Piémont-Sardaigne. Il va falloir, je vous ai parlé de la comtesse Castiglione, qui a fait elle aussi son travail. À Turin, un beau jour, notre Cavour voit arriver le médecin personnel de Napoléon III, qui est aussi d'abord son homme de confiance et qui insiste bien sûr sur le caractère secret de la mission qui l'amène à Turin. Il propose l'idée d'une rencontre extrêmement discrète entre l'empereur des Français et le Premier ministre de Piémont-Sardaigne. C'est l'idée d'une rencontre qui aura lieu à Plombières. Plombières, vous savez, où Napoléon III prend les eaux, il vient en cure. L'entrevue a lieu par une chaude journée de juillet de 1858. Cavour s'est présenté sous le simple nom de Camille Benso. Il est hébergé chez le pharmacien local. Il marche sur des œufs, évidemment. Et dès le lendemain de la première rencontre, c'est un empereur des Français survolté qu'il retrouve. On peut dire que Napoléon III, dans cette affaire, se montre plus nationaliste que les nationalistes. Il est prêt à intervenir aux côtés des Sardes contre l'Autriche. Alors l'entrevue va se prolonger par une promenade en petit landau, on appelle ça un phaéton que Napoléon III conduit lui-même. Elle se termine par un dîner où l'on parle de mariage entre le prince Jérôme Napoléon et la princesse Clotilde de Savoie. C'est à l'occasion de ce dîner qu'a été servie la fameuse glace qui s'appellera désormais la Plombière. Et rentré à Turin, Cavour se dit qu'en fait, on n'est plus très loin d'une intervention française aux côtés du Piémont-Sardaigne. Néanmoins, Napoléon III doit tenir compte de la situation en Europe. Hein, une Angleterre réticente, une Prusse qui reste tout à fait solidaire de l'Autriche. Pendant de longs mois, Cavour reste sur des charbons ardents. Il voit Napoléon III faire un pas en avant, deux pas en arrière. Il est excédé par ce chien d'empereur, comme il l'appelle. On est en train d'essayer de forcer la main de Napoléon III. Notamment, Cavour va multiplier les provocations contre Vienne. On fabrique de toutes pièces de fausses révoltes populaires contre les Autrichiens. Et à la fin, ce harcèlement de Cavour va porter ses fruits puisque l'empereur d'Autriche, François-Joseph, excédé par toutes ces provocations répétées du Piémont, finit par adresser un ultimatum à Victor Emmanuel. Cette fois, Cavour tient le bon bout, il fait durer le suspense, il connaît le métier, hein. Il attend 3 jours avant de répondre non. Et là, eh bien, c'est exactement ce qu'il attendait. Les Autrichiens réagissent fort, ils franchissent le Tessin dès le lendemain. Cette fois, c'est la guerre et cette fois, Napoléon III ne va plus pouvoir reculer.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Avec un récit qui nous relate aujourd'hui sur Europe 1, la création de l'Italie moderne, c'était il y a 150 ans, Franck.
Alors ça y est, cette fois, les Autrichiens viennent d'attaquer, donc les Français peuvent mobiliser. Dès le jour de Pâques, donc de cette année 1959, les régiments français affluent les uns à travers les Alpes, les autres par la mer. Il faut qu'ils se dépêchent, car sur place, le déséquilibre des forces est criant. Face aux 160 000 Autrichiens, Cavour ne peut aligner que 60 000 Sardes, auxquels viennent s'ajouter environ 5000 soldats de Garibaldi. On va vous parler tout à l'heure évidemment de Garibaldi. Dites-vous, pour simplifier les choses, que les Français arrivent néanmoins avant que les opérations sérieuses n'aient commencé. Cavour réserve à l'empereur Napoléon III un accueil digne des anciens Romains. Le nom de Napoléon III barre les grandes rues du port de Gênes pour accueillir le libérateur de l'Italie. Ah, Cavour est heureux. Napoléon III, lui, se montre d'emblée beaucoup plus inquiet. Il se rend compte qu'il manque partout des tentes, des cartouches, de l'artillerie. L'intendance ne suit pas. « Nous avons réuni une armée de 100 000 hommes, dit-il, sans réunir de quoi les faire vivre. » Évidemment, Napoléon III va profiter de cette désorganisation pour rassurer les Autrichiens. Et puis, il fait préparer une attaque au sud. Ça, c'est ce qu'avait prévu l'état-major autrichien. En réalité, il fait remonter vers le nord le plus de troupes possible. La première échauffourée a lieu à Montebello le 20 mai. Cavour pousse Victor Emmanuel à Palestro le 21. Et quand Napoléon III installe son quartier général près de Novare, les Autrichiens comprennent qu'ils ont été bernés. Il est trop tard, il faut remonter à marche forcée, mais les Français ont pris leur position. Le premier affrontement sérieux a lieu à Magenta le 4 juin. Là, on peut dire que les Autrichiens se défendent comme de beaux diables, à tel point que pendant la plus grande partie des combats, on pense que ce sont eux qui vont l'emporter, mais MacMahon fait la différence. Les Autrichiens sont contraints de se replier sur la Vénétie et pendant 2 semaines, on n'en rencontre plus. Ils ont quasiment disparu. À ce moment-là, c'est l'empereur François-Joseph lui-même qui va prendre la tête de son armée. La confrontation, la grande confrontation, elle va avoir lieu sur les collines qui se trouvent au sud du lac de Garde. Imaginez un immense front qui fait 16, même 18 kilomètres, et là, des affrontements moment extrêmement sanglant. Cette fois encore, c'est MacMahon qui emporte la décision au centre du dispositif. Il y a à ce moment-là un énorme orage, les Autrichiens sont défaits, oh, ce n'est pas beau à voir. C'est une boucherie, un combat de bêtes féroces, furieuses et ivres de sang. Pour reprendre l'expression d'un grand témoin de l'époque dont je vous dirai un mot tout à l'heure. Nous sommes, vous l'avez compris, à Solferino. Sur le champ de bataille de Solferino, le soir du 24 juin 1859, on relèvera quelques 38 morts, en comptant les morts dans les deux camps. C'est vraiment d'une violence inouïe. On va voir ce jour-là des médecins s'évanouir devant l'horreur. L'empereur lui-même est très ému. Cavour aussi est ému, mais peut-être pas pour les mêmes raisons. Il se dit que tout ce sang va dégoûter Napoléon III et qu'il va sans doute retomber dans ses vieux scrupules. Une fois de plus, Cavour avait raison de s'inquiéter, car une fois de plus, Napoléon III, effectivement, va se révéler décevant. Après avoir gagné la décisive bataille de Solferino, il va faire un peu marche arrière et laisser tomber ses alliés d'hier.
Gloire immortelle de nos aïeux, extraits du Faust de Charles Gounod sur Europe 1.
Qui date précisément de cette année 1859. Alors, Napoléon III va rencontrer l'empereur François-Joseph, la fameuse paix de Villafranca qui se révèle plutôt favorable à l'Autriche. Certes, les Français gardent la Lombardie, mais pour tout le reste, ça va être quasiment le statu quo, sauf pour le duché de Parme qui est un peu passé sous silence. Au quartier général de Victor Emmanuel, on peut dire que l'heure est au déconvenu. Quand Cavour découvre les conditions de cette paix de Villafranca, il est indigné. Eh bien, puisque c'est ainsi, dit-il, nous continuerons seuls. Seulement, le roi Victor Emmanuel n'a pas la hargne de son ministre. Sa famille a payé pour apprendre la modération et il va accepter le traité de Zurich à la fin de l'année. La Lombardie est tout de même rétrocédée au Piémont, mais sur une base plus faible que prévu. Qu'à cela ne tienne, Cavour n'a pas dit son dernier mot. Il va réactiver des révoltes contre les possessions autrichiennes et puis il s'entend avec le Niçois, avec Garibaldi, pour relancer des opérations militaires. Et c'est alors que de l'émulation entre ces deux hommes, Cavour et Garibaldi, va naître une des plus grandes audaces de l'histoire contemporaine. C'est la fameuse expédition des 10 000, cette marche vers le sud, marche armée, qui fait que dès février 1861, le royaume de Victor Emmanuel compte 22 millions d'habitants. Ah, Cavour, à ce moment-là, n'est pas en bonne santé. Il est même carrément mourant. Il aura tout de même la joie, avant de mourir, de savoir réaliser ou du moins très avancé, le grand rêve de sa vie. En janvier 1861, écrit Pierre Milza, le premier ministre piémontais organisa des élections générales. Le 18 février, le premier parlement italien se réunit à Turin et le 23 mars, les représentants de 22 millions d'Italiens proclamèrent Victor Emmanuel II, roi d'Italie par la grâce de Dieu et la volonté de la nation. Cavour mourut quelques semaines plus tard, le 6 juin, épuisé de travail et terrassé par la malaria, en murmurant l'Italia est fatta, c'est ce qui veut dire l'Italie est faite. Manquait encore la Vénétie, toujours tenue par l'Autriche, et Rome, protégée par Napoléon III. Les difficultés les plus grandes, ajoute Pierre Milza, venaient du problème posé par l'unification effective du jeune royaume. On prête à D'Azeglio, qui ne l'a sans doute jamais prononcé, cette formule « l'Italie est faite », oui, mais il reste à faire les Italiens. Apocryphe ou non, cette phrase résume le faisceau de défis auquel les épigones de Cavour eurent à faire face au lendemain de sa disparition. Ces difficultés et, par la même occasion, le miracle de l'unification italienne, c'est ce que nous allons voir ensemble avec Pierre Milza dans un instant.
L'histoire sur Europe 1. C'est avec Franck Ferrand.
Votre invité sur Europe 1, Franck, est l'historien Pierre Milza, professeur émérite à Sciences Po, vous l'avez dit tout à l'heure. Il a publié de nombreux ouvrages sur l'Italie.
Oh là oui, de très nombreux, dont tout simplement l'histoire de l'Italie des origines à nos jours. Rien que ça, je vous rassure, c'est un vrai pavé, évidemment. On ne règle pas l'histoire de l'Italie en 3 pages. C'est édité, comme toujours, chez Fayard avec Pierre Milza. Une exposition a lieu à partir de demain aux Invalides, à l'Hôtel National des Invalides. Ça s'appelle « Napoléon III et l'Italie, naissance d'une nation ». On sera exactement dans ce que je viens de vous raconter. Et d'ailleurs, l'affiche de l'exposition nous montre une superbe photo, le célèbre portrait de Garibaldi. Bonjour Pierre Milza.
Bonjour.
J'ai beaucoup parlé de Cavour, je n'ai quasiment rien dit de Garibaldi. C'est quand même lui qui a retenu l'histoire dans cette affaire.
Oui, vous avez un petit peu parlé de Mazzini,
sans
le nommer, mais qui doit être nommé parce qu'il fait partie des quelques grands hommes, pour employer une expression un peu galvaudée, qui ont fait ce miracle italien, l'un des premiers miracles italiens, un des premiers. Il y en a eu avant et il y en aura après. Alors Garibaldi, c'est l'autre face du Risorgimento.
C'est l'autre
face. C'est
la partie héroïque des opérations.
De
l'unité.
Oui, si on caractérise Cavour par sa plume ou ses lunettes, pour Garibaldi, on le caractérisera par un sabre. Et c'est presque toujours ainsi que la mémoire historique le représente, sur un cheval blanc ou sur un cheval noir, le sabre à la main, fonçant vers l'adversaire. On n'imagine pas aujourd'hui l'héroïsme qui a pu être celui de ce personnage. Un héroïsme qui s'étend sur 30 ans, sur 30 ou 40 ans. Il part d'Italie après un premier complot, en disant, dans les années 1840, pour aller se battre, pour aller mettre ce sabre au service du Rio Grande do Sul, qui est en guerre contre le Brésil, puis l'Argentine, puis revient en Italie et il met ce sabre au service des Italiens.
C'est un spadassin, mais un spadassin très légaliste, en fait. Il est au service du roi de Sardaigne au départ. Hein. Il ne veut pas du tout prendre lui-même le pouvoir, ce Garibaldi.
Pas du tout. De toute façon, son grand modèle historique, connaissez-vous bien, c'est ce qui explique qu'il faut quelques pages pour parler de l'histoire de l'Italie dans sa continuité. Son modèle, c'est Cincinnatus. Hein, c'est Cincinnatus que les sénateurs romains viennent chercher derrière sa charrue, le traînent pour aller combattre, et ils lui donnent le titre de dictateur. Il dit « dictateur, je veux bien, mais dictateur temporaire ». Et effectivement, ce Cincinnatus, dont il faut savoir comme c'est un peu mythique, va retourner à sa charrue. Et Garibaldi, après chacune des batailles, après chacune des guerres qu'il va livrer, et elles sont nombreuses en Italie et hors d'Italie, retourne lui aussi. Il n'a pas la charrue, encore que il fait quand même un peu d'agriculture dans sa petite île de Caprera, au large de l'Italie Toscane, d'où il repart de temps en temps pour aller faire la guerre. C'est un homme qui fait la guerre.
Risorgimento, cela veut dire ?
Ça veut dire en gros résurrection, résurgence, résurrection. Parce que l'Italie, après des centaines, pour ne pas dire des milliers d'années de grandeur, et notamment la grandeur de l'Empire romain, hein, qui dure 6 ou 7 siècles, l'Italie va tomber au niveau politique, au niveau de l'organisation politique, dans une période d'explosion. Hein, l'Italie, à plusieurs reprises, se trouve partagée entre les puissances européennes, d'où la difficulté à faire l'Italie au XIXe siècle. C'est-à-dire, de temps en temps, ce sont les Allemands qui descendent du Nord pour reconstituer l'Empire, les Français qui débarquent au début du XVIe siècle, surtout pour s'emparer d'ailleurs des richesses italiennes.
Ça ne leur portera pas chance.
Les Français et avant encore le frère de Saint-Louis, etc. Bon, c'est un pays qui était explosé, comme vous l'avez dit, Espagnols, bien sûr, entre de nombreux États, et qui aspire à un certain moment, dans une Europe qui est l'Europe des nationalités, ne l'oublions
et
pas,
voilà,
l'Europe des nations, à faire sa propre unité. Et qui va réussir à le faire, et ça nous ramène à Garibaldi, et ça nous ramène à Cavour, et ça nous ramène à Mazzini, grâce à une classe politique particulièrement remarquable.
Ces hommes du Risorgimento sont des gens très remarquables, non seulement Cavour lui-même ou Manzini dont vous parliez, mais ceux qui vont leur succéder également.
Les Ricasoli, etc., qui sont véritablement des hommes politiques de qualité.
Vous les présentez comme une sorte d'aristocratie de la politique.
Alors, aristocratie, d'abord parce que certains en font partie, à commencer par Cavour, qui de son nom s'appelle Camillo Benzo Conte de Cavour, mais aristocratie d'intelligence surtout. Ce sont véritablement des personnages d'une très grande, à la fois d'une grande conscience et d'une grande intelligence. Ça m'a un peu dérivé sur la fin du siècle. Mais enfin, malgré tout, c'est eux qui font l'Italie et qui vont maintenir cette Italie. Et nous avons là un exemple. Marqué, c'est aussi le siècle des grands hommes. Hein. Ils ont fait le tour de l'Europe, on en trouvera quelques autres. Bismarck ou Gambetta, disons.
Hein. Parmi les symboles de l'unité italienne, il y a Verdi, bien entendu, dont vous avez écrit la biographie.
Voilà encore un qui va avoir un rôle considérable. Vous avez donné un extrait. Ça se passe à Venise. Oui, nous avons... là, il est extrêmement important parce qu'il arrive, Verdi, sur une scène italienne où... les Italiens ne parlent pas italien. Mmh. Et elle commence par Cavour. Cavour ne parle pas italien. Il va l'apprendre en fermant sur la fin, mais il ne parle pas italien. Qu'est-ce qu'il parle? Il parle piémontais, d'autres parlent napolitain, d'autres parlent toscan, etc. Verdi, lui, parle musique. Et c'est la musique qui, à bien des égards, ces opéras qui sont en italien, va habituer les Italiens à d'abord entendre leur langue et surtout entendre une musique qui est une espèce de ciment de l'italianité. D'abord dans la période que Verdi va baptiser ses années de galère, où tous les ans il est obligé de faire un nouvel opéra, quelquefois deux, et qui sont les opéras patriotiques, hein, Jeanne d'Arc, les Lombards à la première croisade, etc. etc. Et puis ensuite l'italianité qu'il va développer dans ses cours, dans ses écrits en tout cas, et qui nous montre que c'est véritablement un héros de l'Italie. Du verbe italien.
Et puisque vous parlez de verbe et d'héroïsme, il se trouve que le hasard fait assez bien les choses, puisque les lettres de son nom peuvent servir d'acronyme. Ça peut être Verdi Victor Emmanuel, roi d'Italie.
Victor Emmanuel d'Italie. Alors là, les Italiens étaient tout à fait au courant de ce que ça veut dire quand ils écrivaient sur les murs à la craie ou à la peinture ce sigle. Tout le monde avait compris que c'était Victor Emmanuel, roi d'Italie. Et ça nous ramène à Garibaldi, qui lui a été le premier à comprendre parmi les républicains qu'on ne ferait pas l'Italie seulement entre républicains, mazziniens, mais qu'il fallait avoir la puissance monarchique avec soi. Et donc, lui, son mot d'ordre, c'était l'Italie et Victor Emmanuel.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
On vous retrouve, Franck, avec votre invité sur Europe 1, l'historien Pierre Milza, pour parler de la création de l'Italie moderne.
Pierre Milza, la mémoire de l'Italie, auteur évidemment de l'histoire de l'Italie des origines à nos jours. Vous êtes complètement plongé dans cette période du Risorgimento en ce moment, Pierre Milza, puisque vous travaillez à une biographie de Garibaldi qui devrait sortir incessamment.
Tout à fait.
Garibaldi, donc ce grand personnage héroïque qui est un peu le pendant de Cavour, nous l'avons vu. Alors, pourquoi Cavour choisit-il la France, si je puis dire, comme allié pour ce royaume de Piémont-Sardaigne dont il est le Premier ministre, alors que, a priori, ses inclinations personnelles l'auraient plutôt porté vers l'Angleterre?
Oui, mais l'Angleterre n'a pas du tout envie de se mêler des affaires du continent. Sauf que, lorsque Garibaldi va partir à la conquête de la Sicile, et débarqué à Marsala, et il y a une flotte anglaise qui est pas loin, elle est même tout près, et qui va pas mal aider quand même Garibaldi à se protéger de la flotte autrichienne, des navires autrichiens qui pouvaient se trouver dans les parages. Bon, donc l'Angleterre n'a pas envie d'entrer dans le jeu. La Prusse, il n'en est pas question pour l'instant, encore que par la suite elle deviendra alliée pour récupérer la Vénétie. La Russie, c'est trop loin. L'Autriche est l'ennemi héréditaire déjà, et reste la France. Or, la France est doublement attractive. D'abord parce que Napoléon III a été carbonaro. On le sait aujourd'hui, on a hésité. Moi, dans mon bouquin sur Napoléon III, c'est encore un moment où les historiens hésitaient. On sait aujourd'hui que, bon, il a été carbonaro.
Il faut dire en deux mots ce que c'est qu'un carbonaro au milieu du 19e siècle.
Comment ?
Il faut dire en deux mots.
Oui, en deux mots, c'est une société secrète. C'est né des soldats français qui étaient en retraite à la fin de l'Empire et qui pratiquent l'attentat terroriste, entre parenthèses. Bon. Y a une autre raison, c'est que Napoléon III se prête lui-même et se présente lui-même comme le champion des nationalités, de la liberté des peuples. Et donc, on va vers Napoléon III jusqu'au moment où, car on s'est arrêté à Villafranca, jusqu'au moment où, tenaillé par sa minorité religieuse catholique qui, à l'intérieur de l'Empire, qui en France, refuse complètement que Napoléon III s'oppose à ce que Napoléon III continue la guerre et notamment à propos des territoires pontificaux, à ce moment-là, Napoléon III va renverser complètement la situation et on va le trouver, les Italiens vont le trouver sur le chemin, et par exemple à Mentana en 1867, au moment où l'armée française au moment où les Italiens vont tenter de s'emparer de Rome, où Garibaldi va tenter de s'emparer de Rome, il trouve en face de lui les zouaves pontificaux, parmi lesquels il y a de nombreux aristocrates français.
Napoléon III défend là le pape spécifiquement.
Tout à fait. Il défend un pape qui, au départ, était un pape libéral, Pie IX, et qui est devenu un pape réactionnaire et qui ne veut absolument pas qu'on lui prenne ses états. Alors, il faut dire que les états de l'Église, ils s'étendent entre l'Adriatique et la Méditerranée, c'est-à-dire qu'ils coupent l'Italie en deux. Ils empêchent l'unité italienne. Bref, et puis, bon, le symbole de Rome, il n'est pas question que l'Italie se fasse sans Rome. Donc, Garibaldi tient absolument à s'emparer de Rome. Il essaiera à plusieurs reprises, avec Mazzini d'ailleurs, en 1849-1850, ça sera un échec. En 1867, ça sera un échec. En revanche, en 1870, c'est la guerre de 70, les Français retirent leurs troupes et on peut entrer dans Rome.
Rome a tout de suite été désignée comme la capitale italienne. Ça n'aurait pas pu être Naples, par exemple ?
Ça a été Florence. Ça a été Florence. Il y a eu la convention de septembre 1864 où les Italiens, les descendants de Garibaldi en quelque les chefs de gouvernement italiens se rendant compte que si ils envoient leur armée pour prendre Rome, la France entrera en guerre immédiatement, acceptent que provisoirement, dit-on, Florence devienne capitale de l'Italie. Elle le sera donc pendant 3 ans. Puisque en 1870, les Français vont prendre Rome et installer le roi sur son trône romain.
Ce qui est étonnant avec cette Italie, c'est que 150 ans plus tard, et après tout c'est normal, puisque c'est très récent, 150 ans, mais on peut dire que le régionalisme y est encore très fort et que l'unité n'est peut-être pas tout à fait acquise en Italie.
Le régionalisme y est très fort parce qu'il a été toujours très fort dans la mesure où il est l'enfant de la situation de l'Italie pendant 2 millénaires, en quelque sorte. Après, il y a eu 2 problèmes pour les Italiens. Dépasser l'Empire, parce que l'Empire faisait que il n'y avait plus d'Italie, enfin absorbait l'Italie, et puis dépasser justement cette période des cités, des villes qui avaient leur autonomie, ce qui laisse effectivement une grande part aujourd'hui au régionalisme. Mais ce qui n'empêche pas que pour le 150e anniversaire de leur indépendance, en plus exactement de leur existence, les Italiens ont montré que malgré toutes les difficultés qu'ils rencontrent, que malgré un Bossi et Sadique du Nord qui poussent dans le sens de la dissociation de l'Italie, l'Italie reste encore une réalité. Il suffit de regarder les joueurs italiens de rugby. Il chante,
c'est vrai. Pierre Milza, Histoire de l'Italie des origines à nos jours, c'est chez Fayard. Votre dernier livre, c'était également chez Fayard, Les derniers jours de Mussolini. Oui. En attendant, cette biographie de Garibaldi qui sortira au tout début de l'année prochaine. Et puis votre biographie de Verdi, elle, était publiée chez Perrin. Merci beaucoup, Pierre Milza. Bonjour Elena.
Bonjour Franck. Alors aujourd'hui, nous allons quitter l'Italie qui chante et qui parfois déchante et nous allons plonger dans l'univers des entreprises françaises. où tout a été décloisonné, aussi bien les murs dans les open space que la hiérarchie. Aujourd'hui, c'est qui le chef dans l'entreprise? Comment on fait quand on ne sait pas trop s'y retrouver ni trouver sa place dans cette hiérarchie? Eh bien, on attend vos appels, vos questions au 3921 ou sur europe1.fr. Les experts Europe 1 vous répondent en direct jusqu'à 15h30.
Merci Elena. À demain, Julia.
Qui va diamant domani et demain, Franck.
Europe 1 vous présente Parole de l'ombre 2.
Retrouvez la grande histoire des Français sous l'occupation.
Affiches, chansons, tracts, poèmes, journaux clandestins sont reproduits à l'identique.
Tournez les pages et dépliez ces archives bouleversantes pour plonger dans l'histoire.
Parole de l'ombre 2.
En librairie pour 34,80€ seulement.